Bonjour, ravie de vous retrouver ce mercredi matin. Eh bien, nous allons parler aujourd'hui de nature, forêt. Et cette fois, c'est la première fois, une grande première, j'ai un invité, Bernard Debargue. Bonjour Bernard.
Bonjour Isabelle et bonjour aux auditeurs de Graphite.
Ravi de t'avoir en face de moi, on peut le dire, voilà. On va discuter un petit peu, écouter aussi des belles musiques et puis on va parler de la forêt, des animaux, des insectes.
La musique et la forêt, tout ce que j'aime.
C'est bien parce qu'on est amoureux de la même chose en fin de compte, de la forêt.
Au moins de ça, et c'est déjà des points
voilà,
importants.
Voilà, tout à fait. Et j'ai un peu la fâcheuse habitude de dire ma forêt, en parlant de la forêt de Compiègne, parce que je ne suis pas compiénoise d'origine, mais j'adore cette forêt.
On est très proche de cette forêt, on la vraiment ressent et on se l'approprie beaucoup. Et c'est pas grave de dire ma forêt.
Ah bah alors c'est bien. Je continuerai.
Oui.
Alors je voulais quand même dire aussi à nos auditeurs, s'ils ne le savent pas, que Bernard Debargue a écrit un très très beau livre qui s'appelle « La forêt dans tous ses états ». Est-ce que tu peux nous dire deux mots sur ton beau livre ?
Alors c'est un livre que j'ai écrit en fait en profitant d'une période récente que nous avons tous traversée, celle de la crise sanitaire où la forêt nous a été interdite. Et j'ai très très mal vécu, mais comme beaucoup, cette période où on n'avait pas le droit de sortir en forêt. Et j'avais tellement de choses à dire sur ce que j'en avais appris que je me suis dit que c'était l'occasion d'écrire un ouvrage. Je suis photographe en fait à la base, donc je parle avec des photos.
Et je dois dire que tu fais de très très belles photos.
Merci Isabelle. Ben, en tout cas, je prends plaisir à les faire et surtout à les partager sur un groupe Facebook qui s'appelle Nous aimons la forêt de Compiègne, justement, auquel je passe beaucoup de temps. Et donc le livre, finalement, c'était un peu une synthèse de cette forêt qui aujourd'hui est soumise à beaucoup de tracas et de calamités. Et c'était l'occasion de porter un regard amoureux aussi, mais pas que, inquiet sur sa situation et son avenir, et de proposer éventuellement des solutions, parce que je pense qu'il y en a, et je trouvais intéressant que les citoyens puissent se les approprier.
D'accord, alors c'est un ouvrage qui est assez conséquent, parce que je ne sais plus combien il a de pages, hein, mais il est bien épais ton ouvrage.
230 pages.
Voilà, donc il faut prendre un petit peu de temps. Moi j'ai commencé à regarder, mais j'avoue que je n'ai pas eu le temps de tout voir. Hein, et j'ai beaucoup regardé, d'abord j'avoue, les photos de la forêt avec les animaux et tout. Ouais, bravo, t'es un bon photographe. Hein.
Merci Isabelle. Bah, c'est important parce que c'est l'occasion de montrer aussi, c'est un peu un livre d'histoire. Hein. Il sera, j'espère, en tout cas un livre d'histoire à travers les images. Dans les anciens livres de la forêt de Compiègne, il y a finalement pas mal de trous, je trouve, dans les photos et beaucoup de choses qui ont disparu depuis. Et c'était aussi l'idée, à travers ces photographies, de dresser un panorama. Je ne suis pas peintre, mais voilà, c'était mon idée, c'était d'essayer de peindre la forêt à travers mes photos.
Super, merci beaucoup. Eh bien, on va quand même écouter un peu de musique, puisque quand même Glissando, qui est sur Graphite 94.9, je vous le rappelle, est quand même une émission de musique classique, mais pas que. Alors, on va commencer avec de la musique classique, avec un compositeur, oh, vous avez tous entendu parler de lui, c'est Vivaldi, bien sûr. Vivaldi qui a composé les quatre saisons, les célèbres quatre saisons de Vivaldi. Alors, il avait attaché un sonnet, c'est-à-dire un petit poème, on va dire, pour chaque saison de l'année. Et nombreux ceux qui pensent que Vivaldi est l'auteur de ces vers que je vous livre. Voici le printemps, plein d'allégresse, les oiseaux le saluent de leur chant joyeux, tandis que les fontaines, au souffle des zéphyrs, coulent avec un doux murmure. Mais soudain, couvrant l'air d'un noir manteau, arrivent les éclairs et le tonnerre, annonçant le printemps. Puis, lorsqu'ils se sont tus, les petits oiseaux reprennent à nouveau leur chant harmonieux. Et puis, dans le pré souriant et fleuri, bercé par le doux murmure des fondaisons, et des plantes, dort le chévrier et son fidèle chien à ses côtés. Aux accents allègres de la musette pastorale, les nymphes et les bergers dansent sous la voûte céleste du printemps éclatant.
Thank you.
Un vrai régal, ce printemps de Vivaldi, vous ne trouvez pas ? Alors je vous rappelle que vous êtes sur Glissando et qu'aujourd'hui je suis avec mon invité Bernard de Bargue. Bernard, on pourrait parler des oiseaux ?
Oh oui, une forêt sans oiseaux. Pitié que ça n'arrive jamais.
Ah oui, ce serait vraiment dommage, on a besoin de leur chant.
On a besoin de leur chant, on a aussi besoin de leurs activités parce que, par exemple, un oiseau qui est très connu pour son bruit, pour son chant, parce que c'est un signal d'alerte qu'on reconnaît facilement, c'est le jais.
Oui, tout à fait.
Il est en plus magnifique parce qu'il a des ailes qui sont bleutées, c'est vraiment un oiseau exceptionnel.
C'est bien, on a la photo en même temps dans l'œil, là, comme ça.
J'espère que vous le voyez, vous l'entendez. En général, quand on se promène en forêt et qu'on entend le jais, on sait qu'on ne verra plus d'autres animaux. Il a lancé l'alerte tout autour et c'est bien aussi pour les autres animaux. Mais le jais a aussi une fonction hyper intéressante et c'est aussi ça qui relie les oiseaux et la forêt dans un cercle extrêmement positif. C'est que le jais est le plus grand disséminateur de glands et donc de graines d'arbres tout autour de l'arbre sous lequel tombent les glands. Il les propage plusieurs milliers par an parce qu'il veut se constituer des réserves en vue de l'hiver. C'est dans sa nature, il l'a toujours fait depuis la nuit des temps, depuis qu'il existe en forêt.
Il est formidable parce qu'en fait, il repeuple tout seul la forêt.
Exactement, exactement. Et c'est vraiment, de mon point de vue, et je n'hésite jamais à le dire et à le faire connaître, cet oiseau est le plus important, effectivement, vecteur de protection et de maintien de la diversité forestière parce qu'il propage effectivement de lui-même de nouveaux plants au-delà du simple périmètre des arbres dont les glands sont issus.
Mais il ne va pas les retrouver tous, du coup, s'il en met autant par terre.
Évidemment. C'est un peu comme les écureuils.
C'est pas juste.
Les écureuils ont aussi cette réputation de mettre des glands de côté, mais non, ils n'en retrouvent que très très peu. Et c'est tout ça qui fait qu'au printemps, évidemment, on a du coup de la germination partout.
Oui, tout à fait. Ouais. Et il y a des chanteurs d'oiseaux, tu te rappelles ?
Ah oui. Hein ? Oui, on est même très fidèles à Compiègne, à Johnny et à Jean.
Jean Boucaud et Johnny Rass.
Voilà. Le duo des siffleurs chanteurs d'oiseaux, qui sont deux garçons exceptionnels à la fois du point de vue humain, mais aussi du point de vue professionnel. Ils ont un registre d'imitation, mais c'est plus que de l'imitation.
Ouais, c'est exceptionnel.
C'est de l'interprétation des chants d'oiseaux qui est exceptionnel. Ça fait 15 ans qu'on les accueille à Compiègne dans le cadre du Festival des Forêts. Et ils sont encore venus cette année. J'espère qu'on les reverra bientôt.
Tout à fait. Et je dois dire que c'est le Festival des Forêts qui les a accueillis en premier.
Oui.
Et on a été vraiment scotchés par ce qu'ils faisaient. Et je me rappellerai toujours d'une balade à Saint-Crépin-en-Bois où on avait une randonnée avec le festival. Puis tout au fond du chemin, on voyait deux hommes en noir qui avançaient. On disait, qui c'est ceux-là ? C'est bizarre. Et ils sont passés tout à coup au milieu de nous sans bouger. Ils ont commencé à siffler et les oiseaux leur répondaient. C'était magique.
Oui, une expérience à vivre absolument si vous avez l'occasion de les voir lors d'une prochaine venue, que ce soit à Compiègne ou dans un autre festival, mais surtout en forêt.
Tout à fait, c'est des grands messieurs. Ouais. Ah oui, et tellement gentils et sympathiques.
Mmh, tout à fait.
Alors les oiseaux, moi j'avais pensé aussi à Vivaldi. Pourquoi ? Parce qu'il a aussi écrit des choses pour la flûte traversière. Et celle-ci doit beaucoup justement à Vivaldi, parce qu'il l'a employée pour la première fois dans son opéra Orlando Furioso. l'année suivante, il la hisse à la place d'honneur en réunissant pour elle 6 concertos, les premiers de son histoire sous cette forme et de cette envergure. Publiés à Amsterdam, ils sont diffusés à travers l'Europe et remarqués par leur originalité et leur valeur par Joachim Quantz, compositeur et flûtiste virtuose à cette époque. Alors je vous ai gardé, en surprise, pour parler des oiseaux, un concerto qui s'appelle Il Gardellino. Je ne sais pas si je prononce bien l'italien, mais enfin, on m'en voudra peut-être pas. Il Gardellino, ça veut dire le chardonneret. On trouve pour la première fois, au début du premier mouvement, une cadence écrite pour la flûte. La popularité du concerto repose sur sa simplicité et sur la qualité de sa facture, sa cadence, son mouvement lent, son titre et la gloire, bien sûr, de son auteur. Alors, c'est en 3 mouvements. C'est l'Orchestre Philharmonique de Turin, dirigé par Alessandro Arrigoni pour Il Gardellino. Thank you. bien sûr, nous étions avec Il Gardellino, c'est-à-dire le chardonneret. Mais il n'y a pas que des chardonnerets dans la forêt. Alors, c'est vrai que moi, j'adore les hirondelles, mais elles ne sont pas dans la forêt.
Non, les hirondelles auraient beaucoup de mal à se mouvoir en forêt compte tenu de leur vol rapide et très proche du sol. Donc c'est pas un oiseau qu'on trouve dans les forêts. On le trouve évidemment dans les champs, on le trouve à proximité des fermes, dans les habitats, dans les granges où elles arrivent quand on leur laisse la place à se loger, mais pas en forêt, non.
Oui, c'est ça. Mais c'est vraiment un animal, je dirais, enfin un oiseau élégant.
C'est un oiseau magique à regarder, en tout cas voler. Ouais. Il a une facilité dans ses déplacements qui est exceptionnelle et c'est une véritable chorégraphie quand en plus ils sont en groupe. On a l'impression qu'ils sont coordonnés, qu'ils font une danse.
Et à toute vitesse. Et puis on sait que quand ils volent haut, il va faire beau.
Ah, bah alors forcément, c'est un rappel important pour ceux qui aiment jardiner ou sortir. Donc on peut sortir quand les hirondelles volent haut, oui.
Par contre, on dit une hirondelle ne fait pas le printemps. Donc, mais pourtant, ils sont là. Et puis, bon, c'est vrai qu'il ne fait pas très très beau, mais bon, on s'en fiche, après tout. C'est la nature.
C'est effectivement une espèce qui est migratrice, donc qui est un signal, évidemment, du retour du beau temps, des belles journées. Le problème qu'on rencontre aujourd'hui sur ces espèces d'hirondelles, parce qu'il y en a plusieurs, c'est qu'elles sont très très impactées par les dérèglements climatiques et leur flux migratoire change énormément, à la fois les parcours et les dates. Et on a de plus en plus de mal à savoir si effectivement cette espèce va survivre. On est vraiment face à un déclin très très important des populations d'hirondelles. Et donc, si vous avez la chance d'en voir, c'est très bien. Si vous avez encore plus la chance de pouvoir les héberger, leur tolérer de quoi nicher, effectivement, voilà. Dans une grange.
Un petit coin dans votre grange.
Voilà. Tolérez-le et acceptez-le. Et c'est un bon signe, effectivement, du printemps qui arrive.
Alors, j'ai retrouvé juste des petites citations comme ça. « Hirondelle volant haut, le temps sera beau. Hirondelle volant bas, bientôt il pleuvra. Hirondelle au champ amène joie et printemps. » L'hirondelle, le jouet préféré du vent. Et c'est vrai que quand on les voit, là, elles sont ballottées. On se demande comment elles arrivent, en fait, à lutter contre des vents, des fois violents. Hein. Tout petit animal comme ça, c'est incroyable.
Bah pendant leur migration, il est bien connu aujourd'hui qu'elles ne dorment quasiment jamais et que le peu de récupération qu'elles font, elles ne se posent pas. Elles continuent de voler pendant leur flux migratoire de plusieurs milliers de kilomètres. C'est absolument exceptionnel et incroyable.
Ah oui, tout à fait. Hein. Quelle endurance! Alors, un petit clin d'œil de ma part, parce que vous savez que Glissando, je veux vous présenter de la musique classique, mais pas que. Alors, j'ai une petite surprise pour vous aujourd'hui.
Qu'est-ce qui l'a frappé, la petite hirondelle? On l'a ramassé sans papier et sans aile. Ce qu'elle a quitté, pleurer pour elle. Elle va plus chanter sur la terre ni au ciel. Bien sûr les frondes, les nuits sans abri. Autour du monde c'est pas le paradis. Mais s'envoler, s'envoler dès qu'on a les pieds sur terre. Qu'on n'a rien découvert. S'embarquer, tout quitter dès qu'un bateau prend la mer. S'en aller même si c'est pour l'enfer. La vie des oiseaux sauvages et prendre à Paris le bonheur ou la cage. J'ai voulu courir après ma chance. J'ai voulu courir et je cours et je danse. Les chiens qui grondent, les nuits sans étoiles. Autour du monde, c'est pas l'idéal. S'envoler, s'envoler dès qu'on a les pieds sur terre. Qu'on n'a rien découvert. S'embarquer, tout quitter dès qu'un bateau prend la mer. S'en aller même si c'est pour l'enfer. s'envolait, s'envolait dès qu'on a les pieds sur terre, qu'on n'a rien découvert. S'embarquer, tout quitter dès qu'un bateau prend la mer, s'en aller même si c'est pour l'enfer.
Très jolie cette petite chanson, n'est-ce pas? Vous avez aimé, j'espère. Vous voyez, ça change. Je vous ai dit qu'il n'y aurait pas que du classique sur Glissando. Alors, je suis toujours avec mon invité, Bernard Debargue. Eh bien, je voudrais que tu nous parles, s'il te plaît, des hannetons. Gros problème.
Ah, alors, les hannetons, ce scarabée, ce gros scarabée. Problème ou pas problème? Parce qu'on en parle très souvent comme d'une calamité. Et en fait, c'est un animal vivant. Il a sa place en forêt. Il a sa place, mais ce qui nous pose aujourd'hui effectivement problème, comme tu le dis Isabelle, c'est la pullulation, c'est le nombre, c'est l'excès de cet animal, parce que il a une grosse activité en se nourrissant pendant 3 ans et demi sous terre des racines de jeunes plants. Et donc il tue depuis les racines beaucoup de la régénération dont on parlait tout à l'heure, portée en particulier par les jets, mais pas que. Et quand il va se retrouver à l'extérieur, c'est tous les 4 ans. Et ça va donc nous arriver inévitablement au printemps 2024, dans un an, de voir des millions de hannetons s'ébrouer par vagues dans le ciel. Et eux, ils ne volent pas du tout comme des hirondelles, les hannetons. Ils ont très, très mauvais pilotes. Ils volent en grappe, c'est très maladroit au vol. C'est un très bel animal malgré tout. En tout cas, quand on le photographie, j'avoue qu'il est très esthétique. Mais il a une grosse activité du coup à se nourrir des feuilles des arbres au printemps. Et donc en 2024, il aura aussi un gros impact sur les jeunes plants, sur les jeunes feuilles des arbres. Donc c'est un problème en soi, c'est devenu un problème essentiellement de la cause humaine, une fois de plus, qui a déréglé le cycle de cet animal. Donc l'animal en question n'est pas la cause de la calamité qu'il provoque, c'en est juste l'élément factuel, l'élément marqueur. Et il est dommage qu'on lui veuille tant de mal, mais malheureusement c'est aussi pour sauver la forêt, en rappelant quand même que c'est un très vieil animal, sûrement qui remonte à la nuit des temps, qu'il était donc bien avant l'exploitation forestière, la création des coupes rases, les engrillagements qui lui fournissent justement les meilleures conditions de sa reproduction. On pratiquait il y a longtemps ce qu'on appelle le hannetonnage. Peut-être certains s'en souviennent effectivement.
Qu'est-ce que c'est ?
Alors le hannetonnage, c'est-à-dire que la récolte justement des hannetons se faisait au bâton. On partait avec des bâtons et on secouait les arbres, on tapait sur les feuilles pour faire tomber des grappes entières de hannetons. On les récoltait et on les donnait à manger aux poules, aux cochons.
Ah oui.
Plein de protéines, cette petite animal. Donc c'était un substitut ou un complément pour nourrir. Et les municipalités, les villages payaient le sac de 50 kilos de hannetons morts qui après servait évidemment à nourrir les animaux de la ferme.
Ah oui, d'accord. Et alors moi, je me rappelle que petite fille, à l'école, on avait des hannetons qu'on piquait avec une aiguille pour faire des sciences naturelles, on va dire.
Ah, si c'est pour un but d'observation.
Oui, bien sûr. On n'allait pas les tuer comme ça.
J'ai le souvenir aussi de cette tactique. Ouais. Malheureusement aussi, en tant qu'enfant, il arrivait de se donner un petit peu d'être un peu sadique, de leur enlever les élytres. Malheureusement, évidemment, on les condamne.
Ah ça, j'ai pas fait.
Moi, j'étais un garçon, donc peut-être que c'était un peu plus dans les souvenirs que j'en ai. En tout cas, j'avais les souvenirs d'avoir fait ça pas mal, en se disant finalement, ils sont tellement nombreux que ça n'est pas si grave que ça. Si, c'est grave, évidemment. Ouais. C'est un animal vivant, bien sûr.
Mais c'est vrai que quand ils sont tous là en masse, je l'ai vu la dernière fois, là. Oh, c'est impressionnant.
C'est très, très impressionnant,
oui. Ah
ouais,
vraiment.
Il
n'y
a pas grand-chose à faire, malheureusement, à ce moment-là.
Ah ouais, parce que l'arbre, il est grignoté là, en un temps record, c'est fou. Hein.
Oui.
Et
les racines aussi. Alors, ce qui pose problème, justement, on parlait de l'action humaine ou des déséquilibres, c'est que les prédateurs de hannetons existent, évidemment, ce sont les chauves-souris. Mais les chauves-souris, on parlait des hirondelles, les chauves-souris ont, elles aussi, beaucoup, beaucoup disparu.
Ah oui.
Elles ont beaucoup de mal à trouver des lieux dans lesquels... elles vont pouvoir se reproduire et rester à l'hiver en hibernation. Donc c'est aussi un gros problème dans la biodiversité forestière, l'absence des chauves-souris. Mmh. Au sol, quand les hannetons émergent au sol, eh bien évidemment les blaireaux, les renards, les sangliers s'en raffolent, mais ce sont des animaux qui sont aujourd'hui chassés, et pour certains considérés comme nuisibles. Et donc là aussi, il y en a peu, pas assez en tout cas, pour faire face à cette pullulation des hannetons.
Ah, d'accord. Alors moi, je n'ai pas trouvé de musique sur les hannetons, hein, je te l'avoue, mais j'ai trouvé le vol du bourdon.
Et j'allais te le suggérer.
Korsakov, voilà.
Mais oui, indispensable.
Avec l'orchestre symphonique de la radio de Hambourg.
Merveilleux.
Eh bien, voilà. J'entends un bruit bizarre. Oh non, voilà, c'est rectifié. Alors, c'était donc le vol du bourdon. Et oui, ça ressemble. La musique ressemble fort, hein, justement, à cet insecte qui nous énerve des fois, mais on en a besoin aussi. Alors, moi, j'aimerais qu'on parle maintenant un petit peu de la forêt, des arbres. Alors, vous savez tous qu'à Saint-Jean-au-Bois, si vous êtes de la région, il y a un chêne qui a environ 800 ans, c'est ça, je ne me trompe pas?
Alors, il y a débat. Il y a débat sur son âge, mais en fait, il a de toute façon un âge absolument exceptionnel, qui dépasse très très largement notre propre, nous, capacité de vie. Et cela étant affirmé, il faut évidemment lui donner le plus grand respect auquel il mérite.
Tout à fait. Et sa circonférence serait de 11 mètres au sol. C'est énorme.
C'est effectivement de loin celui qui a la plus grande circonférence de la forêt. Selon la hauteur à laquelle on le mesure, effectivement, on peut avoir des différences. Moi, j'avais en tête 8 mètres à 1 mètre 50 à peu près de hauteur, parce qu'évidemment, il est porté sur ses racines et sur son système de stabilisation au sol. Donc, il a évidemment une circonférence absolument monumentale. Il faut 5-6 personnes au moins pour en faire le tour.
Ah oui, tout à fait. Et on dit que c'est le bon génie de la forêt.
Bah, c'est un arbre dont on aime à penser qu'effectivement, il a tellement vu passer de rois, tellement vu passer de personnalités, et aussi tellement vu passer d'animaux différents, de tempêtes, de calamités diverses auxquelles il a toujours survécu, qu'effectivement, il est un bon génie, il nous veut du bien. Il est en tout cas tellement stable qu'il nous rassure.
Tout à fait. Alors, c'est vrai qu'il s'est beaucoup dégradé depuis 50 ans, parce que déjà, il a perdu une branche charpentière. Je me demande même s'il n'y en a pas deux depuis. Des enfants, il y a quelques années, avaient voulu détruire un nid de guêpe dans un creux de l'arbre. Ils y avaient allumé le feu. Malheureusement, une partie du tronc avait été attaquée par un champignon, donc ça a brûlé en profondeur pendant plusieurs jours. Alors, c'est un peu. Là, c'est vrai qu'il a un peu une triste allure, on va dire.
Il est très fragile.
Ouais. C'est un vieux monsieur, là.
De son âge vénérable, il est extrêmement fragile. Pour autant, il est parfaitement vivant. Toute la partie arrière de l'arbre, celle qu'on ne voit pas quand on arrive devant en venant de Saint-Jean-en-Bois, est parfaitement active et la sève monte jusqu'aux feuilles. On le voit parce qu'actuellement, justement, la floraison, l'arrivée des premières feuilles est tout à fait spectaculaire. Il n'a plus, effectivement, de branches charpentières. Quand on revoit les anciennes cartes postales ou anciennes
photos... Ah oui, c'est impressionnant, là.
Du début début du 20e, fin du 19e, il était très très large à sa base. Maintenant, c'est une espèce d'énorme pieu posé au milieu de la forêt. Ouais. Mais il est encore vivant et on espère qu'il nous survivra longtemps.
Voilà. Et puis on me disait justement, bon, faut pas l'approcher, hein, on ne doit pas l'approcher parce que un très grand forestier qui est Hugues de Grandmaison me disait que quand une branche tombe, on ne l'entend pas, c'est quand elle est au sol qu'on entend quelque chose. Donc là, si vous approchez trop qu'il y a une branche qui vous tombe sur la tête, vous allez être très très mal. Et justement, pour illustrer donc ce magnifique chêne de Saint-Jean, encore une surprise.
Comme un arbre dans la ville, je suis né dans le béton, coincé entre deux maisons, sans abri, sans domicile. Comme un arbre dans la ville, comme un arbre dans la ville, j'ai grandi loin des futaies où mes frères des forêts ont fondé une famille. Comme un arbre dans la ville, entre béton et bitume, pour pousser je me débat, mais mes branches volent bas. Si près des autos qui fument, entre béton et bitume, comme un arbre dans la ville, j'ai la fumée des usines pour prison et mes racines, on les recouvre de gris. Comme un arbre dans la ville, comme un arbre dans la ville, j'ai des chansons sur mes feuilles qui s'envoleront sous l'œil de vos fenêtres serviles. Comme un arbre dans la ville, entre béton et bitume, on m'arrachera des rues pour bâtir où j'ai vécu. Des parkings d'honneur posthume, entre béton et bitume, comme un arbre dans la ville. Ami fait après ma mort, barricade de mon corps et du feu de mes brindilles. Comme un arbre dans la ville.
Magnifique cette chanson, n'est-ce pas? Tu aimes bien Maxime Le Forestier?
Je le redécouvre grâce à toi.
Ah bon, bah c'est bien.
Et ça me donne très envie effectivement de me refaire une intégrale playlist de Maxime.
Voilà, tout à fait, il a que des belles chansons. Ouais. Alors on était avec le chêne de Saint-Jean, mais il n'y a pas que des chênes dans la forêt.
Et non, il n'y a pas que des chênes dans la forêt, c'est pas l'espèce dominante en termes de nombre d'arbres. Ça me permet de parler d'un autre arbre qui est très emblématique lui aussi, même s'il est parfois un tout petit peu moins spectaculaire, c'est le hêtre.
Ah oui.
Le hêtre représente plus de 40% aujourd'hui du nombre d'arbres en forêt de Compiègne. Et le hêtre est malheureusement pour lui l'arbre le plus consommateur d'eau. Il a énormément besoin d'eau, il a une assez faible écorce, donc sa capacité de stockage est assez restreinte. Il monte en général très haut, c'est aussi ça qui nous fait l'apprécier dans ce qu'on appelle ici les futaies cathédrales. Et donc la plupart des hêtres de la forêt de Compiègne ont été plantés de la main de l'homme. C'est quelque chose qui peut-être pas suffisamment su, mais ça date évidemment de plusieurs siècles.
Voilà, c'est ça, la forêt n'est pas naturelle, si on peut dire.
Si,
elle est naturelle, voilà.
Elle a plus de 1000 ans.
Voilà, mais elle a été faite, elle a été façonnée par l'homme.
Elle a été absolument, elle s'est faite évidemment elle-même, elle travaille tous les jours de l'année à sa survie et à son développement quand les époques étaient meilleures, mais en tout cas, elle a été évidemment façonnée, ciselée, tous les chemins ont été percés, tous les poteaux de carrefour ont été posés de la main de l'homme, et c'est évidemment un patrimoine de ce fait-là, c'est un patrimoine historique dont les arbres, de mon avis, font et intégralement partie. Et j'en profite juste pour attirer l'attention justement sur le hêtre, parce que ce hêtre est très très en danger aujourd'hui compte tenu de ses besoins en eau, et le principal facteur d'inquiétude aujourd'hui pour la forêt, c'est le manque d'eau. Et voilà, imaginez que la forêt pourrait perdre 40% de ses arbres dans les 10 ans qui viennent, est totalement inquiétant.
Ah oui, tout à fait. Et il y a aussi d'autres arbres que j'adore, c'est les résineux.
Ah, alors les résineux ne sont pas forcément toujours bien vus, en forêt de Compiègne en tout cas, parce que ce ne sont pas non plus des arbres évidemment endémiques comme on dit. Donc,
il manque un peu de forêt, un peu de montagne.
Alors, il manque effectivement un peu de montagne ou un peu de chaleur, un peu de soleil, selon le type de résineux. On a résineux du sud, les pins maritimes, par exemple, et puis des résineux qui viennent plus du nord ou des forêts boréales, comme les sapins ou les épicéas. Et aujourd'hui, ces résineux, finalement, ont trouvé, surtout en forêt de Compiègne, un sol qui leur est favorable, un sol essentiellement sableux, dans lequel ils ont trouvé à installer leurs racines, qui ne sont pas très profondes. Et donc, on trouve effectivement aujourd'hui pas mal de résineux en forêt de Compiègne.
Et c'est vrai que ça fait des parcelles tout à fait particulières. Hein. Il y a les résineux, il y a les hêtres, on le voit bien. Alors j'avoue, moi j'adore les résineux parce que je suis une fille de l'Est. Hein. Donc forcément, Lorraine et dans les Vosges, tout ça, j'adore les sapins. Oui. Et mon violon est fait avec de l'épicéa aussi, il ne faut pas l'oublier.
Alors, tu vois. On a une petite pensée pour les épicéas, parce que tu dois savoir évidemment que les épicéas aujourd'hui sont très très en danger. Ils sont attaqués aujourd'hui essentiellement par un insecte, le scolyte, un petit insecte.
Avec qui à l'intérieur.
Qui mange toute tout le cadmium, donc toute la partie vivante est évidemment la plus active pour le transfert de la sève. Et c'est très très dommageable. Et aujourd'hui, c'est une véritable génocide, on peut le dire, d'épicéas. En particulier en forêt de Compiègne, il en reste très très peu. Et dès que ce sont des parcelles qui ont été en particulier plantées, où les arbres sont alignés les uns à côté des autres, ce scolyte n'a aucun problème pour aller l'un à l'autre.
Ah, oui.
Et en quelques années, la parcelle peut être totalement détruite.
Oui. Du coup, s'il y en a un qui tombe, il entraîne les autres.
Exactement.
Ah, oui, d'accord.
Oui.
Quel malheur. Alors, on va quand même parler des pins, mais des pins de Rome. Oui, on voyage un petit peu, mais c'est pas grave. Alors, on va être avec Ottorino Respighi. Alors, je vous dis juste, il est né en 1879 à Bologne et mort à Rome en 1936. Ça vous donne un petit peu une idée. Initié au violon et au piano par son père, il a étudié la composition dans sa ville natale. Il a été nommé altiste, vous rappelez, ça veut dire jouer de l'alto, un violon un peu plus grand, un petit peu plus grave, dans l'orchestre du Théâtre impérial de Russie à Saint-Pétersbourg. Et il s'est initié à l'orchestration avec Rimsky-Korsakov. Fixé à Rome comme professeur de composition à l'Académie de Sainte-Cécile, il travaille avec Diaghilev et les célèbres ballets russes. Il s'engage sur la voie du renouveau de la symphonie italienne avec ses Fontaines de Rome qui rencontrent son premier grand succès. Puis, on trouvera en 1924 les célèbres Pins de Rome. Ottorino Respighi a donné des concerts partout dans le monde en tant que chef d'orchestre. Il a fréquenté de grands compositeurs, de grands musiciens tels Ravel, Saint-Saëns, Stravinsky, Schoenberg, Puccini, Strauss. La dernière période de sa vie marque un retour vers la scène. Il abandonne le langage symphonique pour se lancer dans la composition des opéras. Eh bien, c'est l'orchestre de la radio de Bratislava, dirigé par Andrzej Lenar, qui vous propose les Pins de Rome. Eh bien, vous êtes toujours sur Glissando, donc mon émission de musique classique, mais pas que. Et comme le temps passe tellement vite, et encore plus vite quand on a un invité, on va être obligé de, d'écouter quand même, mais aussi de parler en même temps, j'ai envie de dire. Voilà, parce que je voudrais vous parler des poteaux de la forêt. Tu as déjà vu, bien sûr, les poteaux de la forêt, Bernard ?
Oui, je les ai même tous vus parce que j'ai fait l'inventaire photographique des 305 poteaux blancs que les Compiénois et ceux qui se promènent en forêt de Compiègne connaissent bien. Les 305 poteaux qui effectivement identifient à chaque fois un emplacement et surtout donnent l'orientation des prochains poteaux, des prochaines routes et le retour vers Compiègne avec la petite marque rouge que tout le
voilà,
monde connaît.
Voilà, tout à fait. Et en fin de compte, je me suis aperçue que certaines personnes qui arrivent à Compiègne ne connaissent pas ça. Le petit rectangle rouge, donc c'est bien qu'on leur dise, qu'on leur apprenne. Hein, s'ils se perdent, voilà, ils suivent la direction du... Il faut l'avoir dans le dos. Hein, il faut avoir ce petit rectangle rouge dans le dos. Et du coup, vous allez vers le château, donc vers la ville de Compiègne. Et vous ne serez pas perdus, parce que c'est vrai que la forêt est très grande. Alors moi, je croyais qu'elle avait la superficie de la ville de Paris. Et l'autre fois, à ta conférence, tu nous as dit qu'en fin de compte, c'était plus grand.
Ah oui, mais c'est intéressant, justement. C'est pour ça que j'ai fait cette comparaison. C'est, on imagine cette forêt comme finalement très petite.
Ouais.
Et c'est pas du tout le cas. Elle est 40% plus grande que la ville de Paris, la forêt fait 14 000 hectares. La ville de Paris intramuros fait 10 000 hectares. Pour autant, à l'échelle d'une forêt qui devrait être un milieu protégé, un milieu dans lequel la nature a ses droits, a sa place, dans lequel tous les cycles biologiques peuvent se produire, une forêt de 14 000 hectares, ce n'est pas très très grand.
Ouais.
C'est pour ça qu'il faut aussi avoir cette mesure de la taille de cette forêt
bien
pour
sûr
en prendre le plus grand soin.
Mais c'est vrai que c'est un bonheur pour se promener, hein, soit à pied, à cheval, en vélo. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'on peut faire des balades différentes à chaque fois. C'est tellement grand, il y a tellement de chemins. Tu vas découvrir des coins avec plus des petites mares, des fois. Hein. Et puis aussi, on va découvrir les ponceaux. Ah, qu'est-ce que c'est que les ponceaux ? Eh bien, c'était des petits ponts en pierre qui passaient au-dessus des petites rues qui sont dans la forêt et qui servaient en fait pour les chasses des rois dans le temps, à suivre, forcément, ceux qui étaient à cheval, ils passaient sans problème, mais il y avait des diligences qui passaient derrière avec les dames, voilà, les princesses, tout ça, pour venir voir la chasse. Et il fallait bien pouvoir traverser ces petites rues. Et il y a une société très importante, une association très importante dans le Compiénois qui s'appelle la Sauvegarde du patrimoine des forêts de Compiègne et de l'Aigle, d'ailleurs, qui, justement, c'est une de ses fonctions, c'est de nettoyer ces petits ponceaux pour les remettre en valeur, parce qu'ils sont la plupart du temps en pierre de taille. Et donc, des fois, je vous assure, moi j'y ai participé, des fois on les cherche, on ne les voit pas. C'est tellement, la végétation a tellement pris d'importance qu'elle les cache et on ne les voit pas. Et c'est franchement dommage parce que c'est vraiment très très beau, n'est-ce pas ?
Oui, alors tu as à peu près tout dit sur le sujet des ponceaux. Il est très important de savoir qu'effectivement tous ces ouvrages ont été faits individuellement de la main de l'homme, de la même façon que plus de 1000 km de chemin ont été tracés à travers la forêt, que plus de 300 poteaux, donc ces fameux poteaux blancs, ont été mis en forêt. Et tout ça dans un objectif d'installation et d'aménagement au bénéfice des chasses à cour royales. Mais on en bénéficie encore aujourd'hui et c'est de fait-là un patrimoine. Et ce que fait Gervais avec l'équipe de la SPFC, avec l'entretien des ponceaux, est effectivement un extraordinaire travail, un travail de restauration, un travail de maintien de ce patrimoine. Il n'avait jamais été fait, donc ces ponceaux existent depuis des centaines d'années et ça ne fait que quelques années que l'Office national des forêts et la SPFC effectivement ont conventionné pour remettre ces ponceaux un par un en état. C'est un travail absolument titanesque et ils le font avec énormément d'engagement et c'est bien que les citoyens s'engagent pour préserver leur forêt.
Tout à fait. Et aussi la sauvegarde du patrimoine des forêts, la SPFC de Compiègne, en fin de compte, on nettoie aussi les poteaux, voilà, où on les remet en état, on les repeint, on refait les petits panonceaux qui indiquent les directions. Et ça, c'est très très important, justement, ça fait partie de notre patrimoine.
Oui, à l'entretien des poteaux, effectivement, l'équipe de Claude et les autres bénévoles qui entretiennent les poteaux. On peut aussi parler du nettoyage de la forêt elle-même. Tu parlais de nettoyer, il n'y a
fait
pas que les poteaux.
Aïe, 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 oui.
D'enlever tous les dépôts qu'on peut constater.
C'est monstrueux, oui.
Et on est nombreux, avec Pascal, avec Aurélien et d'autres adhérents de la SPFC, effectivement, à prendre beaucoup de temps et d'énergie pour nettoyer la forêt dès qu'on constate effectivement un dépôt sauvage.
Oui, et ça, c'est vraiment très, très bien. Ça fait une belle forêt propre quand ils sont partis. Ils ont tout emmené. Alors je voudrais juste vous parler justement encore des poteaux avec le petit rectangle rouge, parce que c'est une belle histoire quand même. Hein, c'est Mademoiselle de Montijo qui vient avec sa mère séjourner au château de Compiègne. Elle a à l'époque 26 ans. Lui, Napoléon, est très épris de cette jeune femme. Excellente cavalière, elle part à la chasse. L'empereur n'a pas pu y aller, retenu par de nombreuses mondanités. Mais ce soir-là, elle ne rentre pas à l'heure prévue. L'empereur s'inquiète, il piétine, il fait de long en large, il regarde. La nuit arrive, quand enfin l'équipage arrive aussi, mais le cheval d'Eugénie de Montijo boite. Alors ça a vraiment beaucoup marqué l'empereur. Dès qu'il retourne à Compiègne, Napoléon III ne veut plus revivre la grande inquiétude du 20 décembre 1852. Et sur son ordre, chaque poteau de carrefour de la forêt est marqué d'un rectangle vertical rouge sur la face en direction de Compiègne. C'est une belle histoire quand même.
Oui, on peut ajouter que la hauteur des poteaux donc la hauteur de la position de cette marque rouge n'est pas faite pour un piéton, elle est faite pour un cavalier justement. Ce qui justifie bien évidemment l'histoire que tu viens de raconter, c'est qu'effectivement c'est à hauteur de cavalier.
Oui. Nous, on est obligé de lever un peu le nez pour voir, mais bon, on le voit quand même. Voilà, oui. Tout à fait. Voilà, eh bien, écoutez, je crois que voilà, ça va être bientôt la fin de l'émission. Je suis très heureuse d'avoir eu pour invité Bernard de Bargue. J'espère que cette émission vous aura plu. Je vous dis au revoir. Au revoir Bernard, peut-être à une prochaine fois.
Au revoir Isabelle, c'était un grand plaisir. Merci de ton accueil.
Merci à toi. Et puis je vous dis mercredi prochain. Et on va terminer avec les pins de Rome. Thank you.